Ma come on a été victime.
Je comprends ce petit quand tu dis que la police c'est des chiens. Après avoir vu son frère violemment arrêté par les tiens pour quelques grammes de shit, en plus jamais la loi des trams. Si l'enfant violé ou bombe dans les métros ou dans les trams, eh flic, quand tu nous agresses verbalement, sans coup boy, sans raison, tu nous cherches généralement. Sans motif valable, on voit rien que derrière les fans que tu envoies. T'attends qu'une chose, c'est que l'un nous perd son sang froid. Et flic, comprends que ton air supérieur à la bouche, j'ai la haine quand je vois un frère à moi qui s'est fait abattre.
I'm dangerous, dangerous, dangerous.
Voyou, barbare, intégriste, casseur, terroriste, salopard, sauvageon. Est-ce que le compte est bon?
Car tout porte à croire que les tiécards ont toute la France contre eux.
Dangerous, dangerous, dangerous.
Au départ à Benoît, c'est pas une nouveauté.
Dangerous.
Au tribunal, on s'en sort toujours mal. Ça se ressent dans les sentences, on n'a jamais le choix.
Dangerous, dangerous, dangerous.
On est soudés, solides et solidaires.
Résiste, prouve que tu existes.
Oh, rien de rien.
Quand je vois mes murs, je sais ce qu'ils veulent m'offrir. Une mort lente et douce pour moi, oui, c'est ce qu'ils veulent, mon frère.
Je veux pas rester ici.
Ici pour aller mieux,
mais c'est encore pire.
Si c'est là-dedans que je dois m'habituer, c'est là-dedans que j'ai envie de tuer.
Est-ce que je demande
ma liberté me soit restituée?
Besoin d'évasion, évasion, évasion, effort d'imagination. Ici tout est gris, les murs, les esprits, les rats la nuit ont dû s'échapper de la prison.
Libéré,
je dois m'évader.
Ça c'est déjà fait, je sais que c'est possible.
Aujourd'hui, nous avons besoin de renouveler ce qu'on appelle la lutte anticarcérale.
Salut!
Bonjour!
Alors, ici c'est Radio Kaléidoscope 90M et vous écoutez Les Murs ont des oreilles, radio anticarcérale qui diffuse tous les troisièmes mercredis de chaque mois, de 19h à 20h. Ce mois-ci, en collaboration avec Dégenré, l'émission pour déranger, on parle des femmes et des lesbiennes en rapport avec la tôle. Voilà. Alors aujourd'hui, on va surtout parler des femmes qui vivent la prison au quotidien de l'autre côté du parloir, avec notamment l'interview d'une femme qui a eu des proches en tôle et qui du coup nous raconte un petit peu qu'est-ce que ça veut dire au quotidien, tout ça. Et du coup, on va parler aussi de plusieurs autres choses, comme notamment le suicide en tôle et plein d'autres trucs.
Alors, on va vous passer une première lecture de témoignage, qui est le témoignage de Karine. Et il est monté avec un morceau de musique de Petrograd, qui est un groupe non commercial qui existe depuis assez longtemps. Et le morceau, il dit un peu qu'on vit dans un monde de merde, mais qu'il y a d'autres chemins et qu'on peut vivre d'autres choses. Et voilà, c'est un morceau assez chouette avec un texte vraiment bien.
Je suis issu d'un milieu aisé, où on apprend que la France est le grand pays des droits de l'homme, où la torture et l'humiliation n'existent pas. Et j'ai découvert des choses très hardes sur la prison. La première fois que j'ai été voir mon conjoint Orlando à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, j'étais convaincue que c'était un peu l'île aux enfants. Je lui disais surtout « écoute bien les éducateurs et les surveillants », parce que je pensais que la prison c'était un monde à la Jésus-Christ, avec les surveillants comme apôtres. On est gentil, on t'explique les trucs, faut pas faire ci, faut pas faire ça, dans une dynamique moraliste un peu catho. Le 8 décembre 2000, j'ai pris la plus grande claque qu'on puisse prendre sur cette planète. Mon conjoint Orlando est mort à la prison Saint-Paul-Saint-Joseph de Lyon. J'ai appris qu'il s'était pendu, et à l'Institut médico-légal, je l'ai vu amaigri avec une barbe, des cheveux longs, sales, il puait, il était crasseux. C'était ignoble. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe derrière les murs ? Avant, je m'étais jamais intéressée à la question. Je savais pas qu'on pouvait mourir en prison. J'ai découvert toute l'ignominie de l'administration pénitentiaire et de ses petits sujets. Les surveillants pénitentiaires. Même si c'est les grands directeurs qui décident, les surveillants ont aussi choisi leur métier. Ils acceptent de mettre des mecs sous clé dans des tôles hyper pourries et ils se prennent pour des juges. Je sais pas comment ils font chez eux, le soir avec leur conscience. Bien sûr, ils vont nous dire, il y a des Fourniret, des Guy Georges, tout le pipeau habituel. Alors que la réalité est tout autre. À côté de ces mecs-là qui ont effectivement fait des choses horribles, il y en a qui sont en prison pour rien du tout. Et même les autres, ça reste des êtres humains. Je pense que dans chaque être humain, il y a une part de bon. Et puis la tôle ne résout pas ce qui fait que les mecs vont braquer, dealer ou je sais pas quoi. C'est bien plus profond, c'est la société qui veut ça. L'égalité, la fraternité, tout ça, c'est un beau pipeau. Et j'avais envie de dire à papa-maman, vous êtes des gros menteurs. Les pauvres, je savais que ça existait, mais en même temps, pas tant que ça. T'es dans un déni quand tu viens des classes sociales à la fois proches du PS et très proches du Front National. Élevé là-dedans, t'es sûr que tout va bien. Je crois que malheureusement, une majorité de Français pensent que leur pays est clean sous tout rapport. Alors Orlando essayait peut-être de me préserver, mais pas moi. J'étais sûre de mon coup. S'il avait voulu me dire « Écoute chérie, t'es bien gentille, mais à l'intérieur, tu sais pas du tout ce qui se passe », je sais pas si je l'aurais entendu. Moi, j'étais dans un discours cateau de merde. Écoute bien ce qu'on te dit, t'as fauté, mais c'est pas grave. Et lui, il rigolait, mais il m'a jamais dit c'est la merde ici. Il m'a jamais expliqué ce que c'était l'enfermement. Je suis restée dans mes convictions, et c'est vraiment face à sa mort que j'ai compris. Un petit peu avant quand même, parce que j'ai, il était craint un spip qu'il allait certainement mettre fin à ses jours. Il m'a pas du tout prise au sérieux. Pour lui, Orlando faisait du chantage pour qu'on s'occupe de lui, comme la plupart des détenus, qui m'a dit. Pourtant, ça n'a pas été le cas. Il a fait ce qu'il avait dit. Ça a vraiment été. Réveille-toi, petite conne. T'es dans ton petit monde avec tes parents trous du cul et leurs amis qui sont patrons. Et malheureusement, c'est passé par sa mort. C'est dramatique, mais des fois, je me dis, sans ça, est-ce que je me serais réveillée un jour ? Mon mec, il crève en tôle. Et pendant des années, en entendant parler d'abolition des prisons, je me disais encore, mais ils sont tarés, ces gens-là. Même si ton mec, il est mort, tu peux pas être contre la prison, puisque la punition fait partie de la vie. Même dehors, tout est motif à punition, même pour nos enfants. Des fois, en plaisantant avec mes gamines, je leur dis, vous êtes punis, allez dans votre chambre. Comme la plupart des parents. Mais c'est quoi d'autre que de l'enfermement ? La pire des choses pour un être humain, c'est d'être privé de sa liberté. Priver quelqu'un de sa liberté, c'est le détruire, et ça, on le sait. T'en crèves. Peut-être pas en une heure, mais un jour, deux jours, trois jours. Même si tu crèves pas concrètement, ça te bouffe. Faites la lumière en détention, dont je suis la présidente, c'est pas vraiment une association de familles de détenus. Elle réunit des gens qui veulent se bouger par rapport à tout le bordel pénitentiaire. Les familles peuvent nous contacter pour divers problèmes, de parloir, de transport, ou parce qu'elles ont peur d'aller au parloir, ou que leurs proches rencontrent un problème à l'intérieur de la prison. Et puis on va agir. Avec l'équipe, on fait des courriers, bien évidemment, à la pénitentiaire. Mais c'est vrai qu'on a des méthodes un peu plus radicales. C'est bon, la bureaucratie, faire un million de courriers qui sont à moitié lus, qui usent du papier pour rien. Maintenant, à Villefranche, on leur téléphone. Ils rétorquent qu'il leur faut quand même un courrier, alors on leur dit « Ok, c'est simple, on arrive avec toute l'équipe et les journalistes. » Il y a beaucoup à dire sur les journalistes, mais il faut reconnaître que la pénitentiaire en a une grande peur, à Lyon en tout cas. On agit comme ça. Et puis toutes les infos que je peux avoir, je les diffuse à tout le monde, asso, collectif, citoyen, peu importe. Après, chacun sa méthode pour y donner suite, hein, on est bien d'accord, on n'est pas tous dans la même dynamique. Certains, c'est plus la bureaucratie, d'autres, plus la résistance. Moi, j'aime bien la résistance, ce côté rustique. Après, je dirais pas que les autres assos comme l'OIP ou Banque Publique ne servent à rien. Ils agissent différemment. Mais des structures comme les nôtres, comme l'Envolée ou l'ARPI, qui disent les choses tout simplement et qui sont pas là à boire le café avec des gens de la pénitentiaire, je pense que c'est important qu'il y ait des gens qui leur fassent bien comprendre qu'on baisera pas avec eux, tout simplement. Même pas un petit bisou, surtout pas. On fait jamais la bise à un directeur, ni à une petite spip, ni à personne de l'administration pénitentiaire, même si on les trouve très sympathiques.
She Alors le texte qu'on vient d'entendre, c'est un texte qui est tiré de L'Envolée. Donc c'est une interview d'une meuf qui s'appelle Karine et qui a monté une asso sur Lyon qui s'appelle Faites la lumière en détention. Elle a été interviewée dans un numéro de L'Envolée qui date de l'automne 2009, au moment où il y avait la campagne contre les longues peines et les quartiers d'isolement. Et du coup, elle racontait son rapport à la prison et aussi, elle, ce qui l'a poussée à monter cet asso et comment est-ce qu'elle envisage la lutte contre l'administration pénitentiaire et la prison. Ce texte, je trouve qu'il est chouette parce qu'elle arrive bien à faire des liens avec comment la prison elle est arrivée dans sa vie, sur un rapport un peu personnel. Et puis aussi sur comment la punition elle est intégrée dans notre fonctionnement et dans la société en général. Et en fait, je voulais préciser un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une perspective anticarcérale en reprenant quelques passages qui sont dans l'édito de L'Envolée, où ils expliquent un peu ce que c'est que le journal. Donc L'Envolée, c'est un journal qui est fait par des gens qui sont à l'intérieur et à l'extérieur de la prison et qui est composé de témoignages, d'informations et de textes d'analyse critique de la prison et du monde qui va avec. Ils expliquent « S'attaquer à l'enfermement, c'est forcément s'en prendre aussi à tout ce qui fabrique, réforme, perfectionne le contrôle social hors des murs des prisons. Le formatage des citoyens dès le plus jeune âge, le salariat précarisé ou à perpète, l'urbanisme qui flique les villes et quadrille les espaces sont bien le pendant de la construction des prisons. L'enfermement carcéral joue un rôle social de repoussoir, il produit une peur nécessaire au maintien de cette société. En ce sens, c'est bien plus qu'une simple répression, un moment de contrôle, de sanction des actes « délictueux », entre guillemets. C'est un ciment nécessaire à l'État pour permettre au capitalisme de continuer à se développer dans ses nouvelles formes. Un des problèmes actuels n'est pas tant l'absence de débat au sujet de l'horreur carcérale, entre guillemets, que les points de vue humanistes ou de sociologues qui défendent l'idée d'un enfermement à visage humain. Nous ne sommes pas les porte-parole de ceux que la prison relègue au rang de muets sociaux. Les prisonniers écrivent, réfléchissent, résistent. Nous ne voulons pas penser et nous battre à leur place, mais avec eux. » Et du coup, j'avais envie de préciser un peu ce truc-là, parce qu'à un moment du texte, Karine, elle parle de l'OIP, par exemple, en disant que c'est des manières de lutter qui sont pas en opposition, mais complémentaires. Et je pense qu'il y a quand même des différences assez fondamentales et qu'une perspective anticarcérale, c'est une manière de considérer la prison dans un ensemble. La prison, c'est quelque chose qui permet à ce monde de se maintenir et de fonctionner. Mais elle n'est pas en dehors de ce monde-là. Et du coup, la critiquer sans critiquer tout ce qui est autour, c'est quelque chose qui perd de son sens. La prison et le monde qui va avec, c'est aussi les entreprises qui se font de la thune avec la prison, en faisant des systèmes de gestion et de maintenance à l'intérieur, et notamment les boîtes comme Sodexo, comme Bouygues, comme Eiffage, qui sont aussi des boîtes qu'on peut voir tous les jours autour de nous parce qu'elles ont des chantiers dans d'autres secteurs que la prison et l'enfermement. Et une perspective anticarcérale, c'est aussi une critique qui ne demande pas l'amélioration des conditions de détention ni l'amélioration des prisons, parce que tant qu'on cherchera à les améliorer, et ben on ne cherchera pas à les détruire. Et du coup, des assos qui vont être dans un truc de dénonciation uniquement, effectivement, ça va pouvoir permettre des scandales médiatiques, comme par exemple le bouquin de Véronique Vasseur. Du coup, un scandale médiatique, c'est quelque chose qui permet aux gens de s'indigner sans que les choses elles changent. Et en ce sens-là, je pense que ce truc qu'elle dit aussi, que l'administration pénitentiaire elle a peur des journalistes, ça reste un peu limité en fait. Je pense qu'effectivement, il peut y avoir une peur du scandale, mais que des critiques de journalistes, ça fera jamais fermer les prisons. Et que du coup, les moyens de lutte, ils peuvent être à différents niveaux. Et que c'est sûr que c'est super important d'arriver à saisir les choses qui peuvent être des leviers et des moyens d'action et de pouvoir mettre en place des rapports de force pour pouvoir aider quelqu'un qui est seul à l'intérieur de la prison. Mais que dans une perspective large de détruire les prisons et de foutre en l'air l'État qui va avec, les journalistes et les associations institutionnelles, elles seront jamais nos alliés, de la même manière que porter plainte contre l'administration pénitentiaire, c'est quelque chose qui peut les emmerder, mais en vrai c'est s'en référer à la justice, et la justice c'est aussi ça qui fait que ce monde y fonctionne comme ça.
Alors voilà, maintenant avec Les murs et ondes des oreilles, on va écouter une autre interview qui est l'interview d'une personne qu'on a rencontrée à Grenoble et qui a bien voulu nous parler de ce que ça signifiait d'être proche d'une personne détenue, mais surtout de ce que ça signifie de vouloir lutter par rapport à la détention et à l'administration pénitentiaire et aux formes de répression qui s'appliquent à ça. Alors, cette interview, elle est montée avec un morceau de No Nebraska. Je connais pas le nom du morceau, mais voilà. Alors, c'est un peu long. Mais on peut l'écouter maintenant.
Toi, t'es proche de détenus, c'est ça?
Oui, j'ai mon frère et mon ex-mari. Ils sont détenus, donc j'ai mon frère à Saint-Quentin, prison de Saint-Quentin, mon ex-mari à la prison de Vasse.
Et tu vas les voir?
Non, je vais plus les voir parce que mon frère souffre tellement que j'ai pas envie de le voir souffrir. Donc je me voile un peu la face, on va dire. Il subit beaucoup d'agressions par rapport aux surveillants. En fait, il le provoque. Ils le provoquent jusqu'au moment où il va vraiment péter un plomb. Et ils attendent ce moment-là. Et à partir de là, ils lui font un rapport qui le mène droit aux punitions et donc au mitard. Voilà. Donc il n'est pas tranquille, sachant qu'il a quand même un comportement assez bien. Donc il est très gentil, je veux dire. Mais je pense savoir pourquoi, en fait. C'est parce que avant d'aller à Saint-Quentin, il a été muté. Un peu par ma faute, je dirais, peut-être. À Saint-Quentin, à la base, il était à la maison d'arrêt de Varces. Et en fait, j'ai dû faire appel. Il faisait tellement la misère. J'ai dû faire appel à monsieur le député. Donc, il a quand même fait quelque chose, qui a quand même essayé de faire quelque chose, qui a déplacé une équipe, qui a été voir ce qui se passait, me confirmant effectivement que la maison d'arrêt de Varces, c'était pas très clair, pas très net à l'intérieur. Donc, il me comprenait. Donc, il a quand même essayé de m'aider. Avec sa secrétaire, on a écrit une lettre au ministère de la Justice, donc au ministre Michel Alliomari, donc qui m'a répondu par la suite. Et de là, c'était une catastrophe. Après, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Je sais qu'elle a agi, qu'elle a fait quelque chose. Donc je ne peux pas dire qu'elle était de mon côté, j'en sais rien. Apparemment, son courrier, elle est de mon côté, mais j'y crois pas. Parce que de là, mon frère a commencé à subir des agressions au niveau des surveillants, du personnel. Et on commençait à lui faire des misères, pas possible. Jusqu'à aujourd'hui, ça dure encore. Donc ils l'ont transféré. Le dossier a suivi. Donc le dossier a été transféré avec mon frère. Donc sûrement qu'il y a eu des rapports de la maison d'arrêt de Varces, du personnel. Ce qui fait que là-bas, ils ont pris le relais. Donc ils n'arrêtent pas de lui faire subir des trucs pas bien. Donc ça devient insupportable. Insupportable.
Tu t'en veux?
Ben, je m'en veux pas, les deux. J'ai quand même essayé de l'aider ici. Et je m'en veux dans le sens où la justice, elle est hypocrite, quoi. Où en fait, on peut même pas faire confiance à la justice. On peut même pas se plaindre à la justice. Parce que c'est des hypocrites, point final. Moi, je dirais aussi qu'il y a beaucoup de racisme. Parce qu'il se fait insulter de sale arabe, de sale beurre. Donc, le racisme, c'est en premier lieu. Ils comprennent pas surtout que le fait qu'ils sont en prison, c'est déjà un moyen de payer sa connerie. Donc je vois pas pourquoi après on leur refait des misères. Donc ils en profitent. Ils ont le pouvoir, ils ont tout pouvoir, ils ont un uniforme, ils en profitent. Sachant que le prisonnier, au moindre moment où il va hausser la voix, ou dire un mot, ou se défendre, il va en ramasser plein la gueule. Donc ils en profitent.
Ça, c'est des trucs qu'il te racontait quand tu...
Ouais, et qu'il raconte encore aujourd'hui à sa femme et à ma mère. Et moi, je peux plus... Donc quand je vois ma mère qui est malade en ce moment par rapport à ça, sa femme qui souffre, qui se fait fouer dans tous les sens, c'est horrible. Voilà.
Parce que du coup les parloirs ils sont plus stricts depuis qu'il y a eu ça.
Ils sont plus stricts les parloirs par rapport à sa femme, ouais. Donc même elle, ils s'en prennent un petit peu à elle, mais bon elle garde son calme donc ça va. Mais ouais, psychologiquement ils sont pas contents de ce qu'ils font en famille quoi, ils en profitent bien. J'ai envie de dire des mots, mais je peux pas, quoi, ça.
Toi, après que t'aies écrit cette lettre, tout ça, ils ont changé leur comportement quand t'allais au parloir ou t'y es partout?
Bah, moi, ils m'en ont voulu, la Varces. Ils ont dit que j'aurais jamais dû faire ça, les surveillants. Je leur ai dit, mais le problème avec vous, c'est que vous abusez du pouvoir. Déjà, vous maltraitez les familles à la base, quand on arrive au parloir. Donc, à la fouille, en présentant nos papiers, il faut voir comment ils nous parlent. Hein. Donc moi, j'en ai remis en place plus d'un, ça a marché. Par rapport à moi, ça a marché. Pour vous dire qu'il y en a un qui pouvait pas me sentir du tout, quoi, qui a fini par devenir mon ami, en fait, finalement. Parce que, en fait, c'est ça, c'est... Il faut leur montrer qui on est, de quoi on est capable, qu'on a des valeurs. C'est pas parce qu'on a des proches en prison que forcément, nous, on est... Enfin, ils nous mettent dans le même panier qu'eux. Donc, et même une personne en prison, on va pas dire que c'est une personne pas bien, donc, d'accord. Donc, elle peut avoir autant de qualités que n'importe qui. Et comme on dit, comme tout le monde dit, personne n'est à l'abri de la prison. On peut être quelqu'un de très bien et aller en prison pour quoi que ce soit. C'est un monde d'hypocrites, de racisme, un monde d'abus de pouvoir, c'est un monde de fous, quoi. Et puis vous montre des choses à la télé, des publicités, de surveillants, de devenir surveillant dans des prisons, mais franchement, c'est pas ça du tout ce qu'on voit, les publicités, les affiches, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe réellement, quoi. C'est que des souffrances. Au parloir ou en prison, c'est que des souffrances, il y a que ça. Des mamans qui pleurent parce qu'on les maltraite quand elles présentent leurs papiers.
C'est quoi les maltraitantes, par exemple?
Ben, la façon dont ils leur parlent, c'est on sent la voix. Je vous ai dit de me présenter les papiers, c'est pas ça, vous me prenez pour qui Alors que la maman, elle a du mal à comprendre parce qu'elle est peut-être analphabète, je sais pas, ou elle comprend pas très bien le français. Donc, mais moi, j'ai toujours intervenu dans ces moments-là. J'interviens. Je peux pas laisser passer ça, quoi. Après, c'est risque-péril, hein. Je m'en fiche complètement. J'ai peur de personne. Et j'ai de quoi me défendre, d'accord? Donc, voilà.
Et il y a d'autres gens qui font comme toi, t'as l'impression?
Pas beaucoup, ils ont tous peur. Ils ont peur pour eux, mais ils ont surtout peur pour leurs proches en prison. Ils me disent que si nous, on commence à se défendre ou à hausser la voix, qu'ils s'en prennent... Effectivement, c'est vrai en plus, hein. ils s'en prennent aux prisonniers, en fait. Après, si vous savez que celui qui est en prison est capable de ne pas se laisser faire, ça va, mais après... Moi, mon frère, ils ont dit on va tout faire pour que tu te pendes. On veut que tu te pendes. Mais jusqu'à présent, il tient le coup parce qu'il y a ma mère, il y a sa femme, il y a ses enfants. Mais franchement, moi, je peux plus aller le voir à cause de ça, c'est pas possible. On a envie, ils nous poussent à l'agression, à la violence, ils nous poussent à. Ils se rendent pas compte, mais si, ils le savent, mais ils prennent du plaisir à vous voir souffrir. Ça leur fait du bien. Pour moi, c'est des lâches. C'est qu'à l'extérieur de la prison, c'est des lâches. Mais à l'intérieur, ils en profitent. À partir du moment où ils ont un pouvoir, une patte à la main. Et quand vous les croisez, par exemple, à Carrefour et Chirol, croyez-moi qu'ils n'ont pas le même comportement. Mais là, vous en profitez pour leur dire les quatre vérités en face. Hein.
T'as déjà croisé des matons.
Ouais. Ils en profitent bien. Alors, je vais vous le dire. C'est magnifique, à ce moment-là.
Comment ils réagissent?
Bah, ils bégayent. C'est plus les mêmes. Non, mais vous savez, c'est le boulot. Il n'y a pas de c'est le boulot. On est comme on est. Boulot, pas boulot. Le tempérament qu'on a, le caractère qu'on a, il est à vie, quoi, il est en soi. Donc, non, c'est pas le boulot, non, pas du tout. Voilà. Moi, je connais beaucoup de gens dans la justice, donc je sais comment ça se passe et ce qu'il en est. Donc, vous avez des bons, mais il y a très peu de bons dans la gendarmerie ou dans la police ou chez les surveillants. Et les surveillants, quand ils sont sympas avec vous, quand ils sont gentils, comme celui dont je vous disais qui est devenu comme un ami, quoi, quand il me voyait super sympa, plus de fouille, plus rien, c'était voilà, il me laissait passer avec mes biberons, mes couches, sachant très bien que c'était pour le nourrisson, quoi, c'était pas pour franchement, il est fouillé à peine, quoi. Donc il a été un petit peu mis à l'écart, on va dire. Et tous ceux qui sont gentils avec les familles, sincèrement, hein, on finit toujours par les mettre à l'écart. On les revoit plus. Et quand on leur demande où ils sont, ben ils sont dans un autre poste ou dans un bureau. Ou... On les voit plus. Ils nous mettent que les mauvais dans les premières barrières. Voilà.
Et il y avait d'autres formes de pression, de violence que ces trucs de papier, par exemple?
Moi, il m'est arrivé un truc une fois, c'est que ils voulaient absolument fouiller donc de haut en bas. Donc j'ai dit, moi, il est hors de question. Tout ça parce que je voulais faire passer un biberon de lait pour le bébé. Et une couche. Je leur dis, écoutez, ouvrez le biberon, goûtez le biberon, ouvrez la couche, ce que vous voulez, quoi. Mais...
Et du coup, là, ils ont exigé de te fouiller, toi,
ouais.
T'as refusé.
Et donc, j'ai refusé. Ils ont fait venir... Non, c'est une femme, à ce moment-là. Et les femmes, elles sont très agressives, par contre.
Est-ce qu'au début, c'est un homme qui voulait te fouiller?
Non, ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit de me fouiller. Ouais. Donc, ils ont fait venir... Il y avait une femme à ce moment-là. Donc, je me suis un peu, j'ai un peu rebellée dans le sens en disant, je vois pas pourquoi moi vous me fourrez, pas tous les autres. Je suis désolée, si vous fouillez tout le monde. J'ai pourquoi moi, j'ai rien à me reprocher. Je dis, même si vous faites votre boulot, je sais que vous le faites pas correctement, c'est juste pour m'embêter, quoi. C'est juste pour mettre des bâtons dans les roues, sachant que j'ai une grosse gueule. Donc, ils ont été faire venir la chef, me dire que j'ai été mal polie, que j'ai proliféré des insultes, tout ce qui s'ensuit. Et je leur ai dit, vous savez, il y a une caméra là-haut. J'ai dit, mais non, si vous êtes honnête, on revoit le film ensemble. Donc, non, ça marche pas. J'ai dit, vous faites comme vous avez envie. Donc, je me suis pas laissé faire quand même. Mais ils m'ont quand même menacé. Hein. Ils m'ont menacé de si je l'ouvrais encore une fois ou quoi que je fasse, plus de parloir, plus rien.
C'est déjà arrivé, ça?
Ils n'ont pas réussi. Je me suis pas laissé faire. Parce que moi, après, ce que je fais, c'est que j'ai eu affaire aussi à l'Observatoire des prisons, avec qui on a écrit des courriers. Donc, quand ils voient que vous êtes capable d'aller toucher haut, ou d'aller voir le député, observateur des prisons, d'écrire à Lyon-Marie, ça leur déplaît vachement, mais bon. Mais zut, à la fin, on a des droits, quoi. Merde, on a des droits, on s'en sert, et quand on s'en sert, ben, c'est là qu'on se fait encore le plus enfoncer, quoi. Donc,
Il y a d'autres femmes qui s'est arrivée?
Je sais pas trop, mais je sais qu'il y a des femmes à qui on parle mal. Au passage du sous-porche, des jeunes surtout à qui on parle mal, des jeunes hommes. On voit les jeunes maghrébins qui passent, c'est la fouille, c'est ils sont pris pour des CRS, quoi. Ils vous parlent comme si, je sais pas, ils savent pas demander les choses correctement et poliment, ils savent pas le faire.
Toi, tu discutais, par exemple, avant d'aller au parloir ou avec...
Avec des gens, oui.
Ouais.
Oui, souvent. C'est ce qui se passe le plus souvent, d'ailleurs. On boit un café ensemble, on discute, on regarde... chacun raconte à peu près le problème, pourquoi le frère, le mari, ou le neveu ou le cousin est en prison. Mais c'est vrai que 98% des cas, je dirais même plus, 99% des cas, tout le monde se plaint du comportement des prisons. C'est un monde fermé, c'est un monde où tout le monde fait comme il a envie dans les prisons. C'est un monde où on interdit les prisonniers de se défendre, de dire ce qu'ils en est.
Et au moment du parloir, par exemple, est-ce qu'il y a des fois où on t'a empêché d'avoir de l'intimité avec ton frère? Enfin, dans le genre
des frères, oui, des fois ils vous regardent pendant un moment. Si vous posez la jambe dessus sur votre mari, on va vous dire de l'enlever. Alors que vous êtes assis chacun de votre côté sur une chaise, je veux dire, c'est... Voilà. La sévérité, elle est plus au niveau de la fouille en bas, enfin du passage. Après, en haut, plus ou moins, ça va, quoi. Il suffit de leur dire haut.
Et après que t'aies écrit la lettre?
Plus de sourire, plus de bonjour, plus rien. Non, il y en a un qui m'a dit que j'aurais jamais dû faire ça. Je leur dis, comme vous... Vous n'auriez jamais dû agresser les prisonniers de cette manière-là, d'en faire des misères. Je comprends pas. Je dis pourquoi vous avez tous les droits et nous non. Donc je dis, il y a des droits pour. Et comme j'aurais dit, les prisonniers ont des droits. Donc je vois pas pourquoi ils les utiliseraient pas. Donc ils ont des droits. Les droits de l'homme, c'est en prison comme pas en prison, quoi. Voilà.
C'était quoi la fréquence des parloirs?
Deux fois par semaine. Par personne. Avec les enfants et tout. Rien n'est conçu pour les enfants, par contre, ça c'est... Et c'est très sale.
Avec toi.
Ouais. C'est très, très, très sale. Les parloirs sont très, 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 très sales. Franchement, et c'est ce que disait monsieur le député, justement, que ça allait pas. Aucune aération, des chaleurs pas possibles, en étouffé, quoi. C'est... Aucune clim, bon, la clim à la rigueur, mais je veux dire, c'est très, très sale, quoi. C'est...
Et du coup, pour les enfants, c'est vraiment pas...
Non, c'est pas du tout hygiénique. Vous êtes obligé d'aller avec des désinfectants en partant de là-bas, parce que franchement, c'est... Les jouets... Le peu de jouets, tout cassé, tout pourri, tout... Qui servent franchement à rien du tout. Très sale, y a rien. Aucun nettoyage, rien. C'est très, très, très sale, franchement.
Et il y a des personnes qui ont essayé de faire des trucs pour que ce soit mieux adapté pour les enfants ou... Enfin, des détenus, des proches de détenus.
Non, mais même si tout le monde se plaint, tout le monde le disait à haute voix, mais le problème c'est qu'ils n'ont rien à foutre, quoi. C'est pas leur souci à eux. C'est pas leur problème. Eux, ils sont là pour faire leur métier, entre guillemets.
Et il y a beaucoup d'enfants qui viennent au parloir ?
Oui, il y a pas mal d'enfants.
Toi, t'avais l'impression que ça prenait une bonne partie de ta vie ?
Bah oui, c'est quand même 2 fois par semaine. Il faut s'y préparer tout le matin, sachant que vous emmenez les enfants avec vous, c'est pas... Mais après, ça devient un rythme, quoi. Je dirais pas un bon rythme, mais... Voilà, on se voile les yeux, quoi. On y va, tout simplement. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, à ce moment-là. Ça devient un quotidien.
Et par exemple, on te laissait amener des bouquins, des fringues, des trucs comme ça, ou pas trop ?
Les fringues, ouais. Bien que de temps en temps, on vous les vole, on vous les... Ouais, il manque toujours des fringues, la plupart du temps. Des fois, on vous retrouve pas un sac. Bizarre, hein. Les bouquins, ça avait du mal, mais après, bon... Quand vous assistez, ça va, ça passe. Pas n'importe quel bouquin non plus.
Ça veut dire quoi, par...
Ben, disons que faut que la couverture du bouquin soit souple, pas rigide. Pourtant, c'est du carton, quoi, je veux dire, il n'y a aucune différence, mais bon. Faut que le bouquin soit souple. Il y a beaucoup d'agressions à l'intérieur. Mon frère s'est fait agresser. Mon frère, il a trop souffert. Donc lui, c'est... Pour l'histoire de conneries, je sais plus ce que c'était, ils vous ont fait venir des types tout équipés. C'est... Ça ressemble à des CRS, hein, je sais pas.
Les Eris.
Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, ils sont venus, il y a toute une équipe dans sa cellule, franchement. Dans une cellule de 2 mètres carrés. Ils l'ont mis à terre, ils l'ont agressé, ils l'ont pointé avec des stylos. Ils ont trouvé la peau avec un stylo. Disant qu'ils rebellaient, franchement, on ne peut pas rebeller en 2 mètres carrés avec une équipe de d'Eris. Donc il faut arrêter, quoi. C'est n'importe quoi. Il a beaucoup trop souffert. Ils l'ont mis au mitard, il criait à travers le mitard. J'ai reçu des coups de fil disant que ton frère est en train de crier à travers la barrière, les barreaux du mitard. On n'entend que lui. Je les ai appelés. J'ai appelé à la prison, j'ai dit j'arrive de suite, en les insultant. J'ai dit j'arrive de suite. Je suis allée donc au portail de la prison, j'ai fait des scandales pas possibles, hein, mais j'étais hystérique en fait. Donc il y avait mon mari à ce moment-là avec moi, il n'était pas encore. Donc il a essayé de me retenir, mais moi c'était hors de question, j'avais pas peur quoi, j'avais pas. J'ai attrapé 2 souviens qui sortaient du portail par les épaules en leur disant, je les ai poussés carrément en disant vous faites bien les malins, faites les malins, il est en train de souffrir, vous faites les malins quoi, c'est. Je les ai insultés de tout. Et j'ai appelé l'Observatoire des prisons à Paris, directement, qui ont agi direct tout de suite, enfin le plus vite possible, qui ont appelé en disant qu'il fallait un médecin extérieur, neutre, pas un médecin de la prison, parce qu'il n'a jamais eu les bons médicaments, jamais été soigné correctement, donc tout ça, ils l'ont donc ramené à l'hôpital, fait des soins et tout ce qui s'ensuit. Mais de là, il avait été aussi transféré, donc, frère. Mais ça s'était bien passé. Parce que là, il y avait faute grave. Très grave. Mais j'ai tout fait, quoi. Je me souviens que j'avais délaissé mes enfants, ma maison, tout, pendant des jours. Je faisais que ça. J'allais en prison, à la prison, au portail, tous les jours. Tous les jours. Ils en devenaient fous, quoi. En disant que s'il arrive quoi que ce soit à mon frère, mais quoi que ce soit, de grave, qu'il meure ou qu'il soit dans un coma. Il les pousse à bout, en fait. Hein. Il les pousse à se suicider. Hein. Il les pousse à se suicider. Il faut vraiment avoir la foi en quelque chose pour pas les suicider, quoi. Sinon, il les pousse à bout. Hein. Donc, nous, les familles, ils ne sont pas compte dans quel état ils nous mettent. Hein. Donc, heureusement que certains surveillants ont compris, ont tout fait pour calmer la situation aussi.
Et cette fois-là, il est resté longtemps au mitard, quand même, ou il a été...
Ils ont envie de sortir.
Pour l'emmener à l'hôpital.
Ouais, mais ils ont envie de sortir, ils remettent en cellule normale. Donc.
Ça, c'est tu pensais parce que t'as.
Oui,
t'étais
oui,
là tout le temps.
Ouais, tout le temps. J'ai les ai menacés au téléphone, j'ai tout fait quoi. Je leur dis, je viens, je me fais sauter quoi, j'en ai rien à foutre quoi. Je lui dis, je vous trouve 2-3 mecs qui sont capables, qui ont la folie dans le cerveau, mais qui vont faire ce qu'il faut quoi. Je lui dis, vous me mettez dans des états, où on voit tellement noir, on a des œillères, quoi. Et on fonce droit devant comme un taureau. Et sur le coup de la folie, on sait pas ce qu'on fait, quoi. C'est putain merde, je veux dire, pour rien, quoi. Pour rien. Tout ça parce qu'ils abusent de leur pouvoir. Ça leur fait plaisir, ça les fait jouir d'abuser de leur pouvoir, quoi. Ça a dû arriver à d'autres détenus, hein, c'est sûr. Hein. Mais les familles ont peur d'agir. Elles ont trop peur d'agir. Elles osent pas faire les démarches. Vous avez beau leur expliquer ceci, cela, mais...
T'as essayé de discuter, toi, avec...
Ouais, avec des familles, des mamans, des femmes, des épouses, quoi. Donc, ils font que pleurer, pleurer, pleurer. Si ça va de pleurer un temps, après, il faut arrêter de pleurer, il faut agir, quoi. Je dis, c'est seulement tout le monde faisait comme moi, qu'on était solidaires et tout le monde faisait la même chose, ça irait peut-être beaucoup mieux.
Mais t'as l'impression qu'il n'y a pas assez de solidarité?
Non. Il y a plus de peur qu'autre chose. Il y a beaucoup plus de peur qu'autre chose. Moi, j'ai plus de colère et même j'estime qu'on n'a pas à faire subir un être humain n'a pas à faire subir à un autre être humain des choses de ce style. On vous parle de respect dans la justice, de justice même. Mais il n'y a pas, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Du tout. Que ce soit dans la police, en gendarmerie, que ce soit dans les prisons, il n'y a pas tout ça.
Est-ce que tu as pu ressentir aussi avec la justice, par exemple, avant son incarcération, des choses aussi?
Oui, au niveau de la garde à vue, au niveau du jugement, avant d'aller en prison. Moi, j'ai pris mon frère en photo au tribunal, je me suis fait courser par les flics. Hein. Et je disais aux flics, eh ben, vas-y, approche, approche, viens, cours, 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 cours. Je disais, cours, cours, mais ils ne pouvaient pas parce que c'était deux sur mon frère. Donc un qui courait derrière moi, et je disais, bah, vas-y, cours, c'était un homme, si tu y arrives, vas-y. Et ils avaient la rage. Ils avaient tabassé mon frère en garde à vue, en fait. Donc ils ont dû. On était en garde à vue avec mon ex-mari ce jour-là. Enfin, pas en garde à vue, au commissariat de police. Donc, on a scandaleuse, hein, bien sûr. J'ai fait mon scandale là-bas et tout. Donc, quand ils l'ont sorti pour le ramener au tribunal, j'ai pris des photos. Au tribunal même, j'ai pris des photos sur le banc dans le couloir. Donc, avec tous ses pansements, son bras cassé, les doigts cassés. Ouais. Donc, moi, comme on dit, et bon, la justice va dire à un homme, il n'y a rien qui justifie qu'on frappe une femme. D'accord? Elle a beau vous mettre en colère et dire n'importe quoi, le mec, il va se faire enguirlander par le juge, voire aller en garde à vue, faire de la prison parce qu'il a tapasé sa femme. Pourquoi dans l'autre sens? C'est autorisé. Il n'y a rien qui justifie la violence. Surtout quand un prisonnier ou une personne interpellée a des menottes. On vous tabasse un type menotté pendant un entretien, pendant une interrogation. Non, c'est pas normal.
Et, l'avocat, il en a parlé qu'il avait subi des violences,
oui,
le juge.
Ouais.
Et ça...
Ben, le juge ne sera, comme il me l'a dit à moi, le juge, on donnera toujours raison et jamais tort à un flic.
Il l'a dit.
Il l'a dit. Donc, ce jour-là, il m'a dit, on donnera toujours raison aussi à un flic. À la police, en fait. Quand vous leur dites qu'ils ont été agressés, c'est qu'il y a toujours une raison. C'est pas pour rien. Flic ne frappe jamais un détenu pour rien.
Il avait pas vu un médecin pendant sa garde à vue?
Si. Mais le médecin, pareil, hein, ne pourra pas tout dire, tout faire, parce que c'est pareil, il y a les flics derrière.
Et toi, dans ces affaires de justice, t'as été interrogé à des moments?
Oui. Oui, oui, bien sûr.
Donc comment ça s'est passé?
Mal pour eux, bien pour moi. J'ai jamais dit quoi que ce soit. Ils m'ont toujours menacé d'aller en garde à vue, d'aller en prison, d'être témoin de choses qui me mèneraient en prison. On m'a arraché de ma fille des bras alors que je l'allaitais. Ils ont tout fait. Donc, fort heureusement, des gens ont vu l'action. Enfin, quand je me suis fait interpeller par les flics, ont appelé quelqu'un de proche qui ont appelé justement l'avocat. L'avocat a appelé le commissariat de police disant qu'ils avaient intérêt à me relâcher de suite, qu'ils n'avaient pas le droit de me faire ça.
T'as été mise en garde à vue avec ton enfant?
Non, ils n'osaient pas me mettre, parce qu'ils savaient qu'ils étaient en tort. Donc, ils m'ont mis dans un bureau, mais ils avaient pris ma fille. Je leur ai dit, de toute façon, dans les 5 minutes qui suivent, vous allez prendre ma fille. Parce que vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais donc, il y a eu un enquêteur qui était venu et qui a essayé de me bousculer, hein, de me faire peur, ce qu'il voulait. Certains, j'avais peur au fond de moi. Mais j'ai appris ne pas avoir peur d'un flic. Donc, et même pour moi, c'est tellement des traîtres et des lâches qui vont servir de la violence pour vous interroger. Donc, j'ai jamais répondu à leurs questions positivement. Donc, malgré leurs menaces, malgré... Et ça, c'est ce que je conseille à toutes les mères et à toutes les femmes, de ne pas céder. De ne pas céder, parce que les menaces, elles ne servent à rien. Ils ne mettront jamais à exécution leurs menaces, de toute manière. On ne met pas quelqu'un en garde à vue, en prison comme ça, quoi. Et il faut des preuves, que ce soit noir sur blanc, il faut des preuves, quoi. Et les preuves, elles sont où? Il n'y en a pas. Malheureusement, ça arrive souvent à des femmes qui cèdent, hein, c'est par la peur. Voilà, elles cèdent, mais il ne faut pas. Surtout pas. Il faut avoir le caractère et la force de pas céder.
Et là, ils sont encore pour longtemps entre eux?
Non, quelques mois. Mais mon frère devait déjà sortir il y a longtemps déjà. Mais là, le problème, c'est que, comme je vous ai dit, à chaque fois, on lui cherche, à chaque fois, on le cherche. Et à chaque fois, on lui fait un rapport. Et à chaque fois, le juge, le procureur dit que. Voilà. Il sortira pas. C'est prolongé. Là, il a pris un an ferme pour rien. Intérieur de la prison.
Pourquoi?
Parce que sa femme a été le voir, donc. En fait, c'est deux surveillants qui ont cherché mon frère. Donc, il avait. Au début, donc, il n'avait pas cédé. Et puis, au bout d'un moment, il avait. Bon, normal, hein. Donc, il s'est défendu. Donc, avec deux autres prisonniers, ils sont bien d'accord avec deux surveillants pour faire un coup à mon frère. Donc deux prisonniers ont été voir le surveillant en disant que mon frère a du shit dans sa cellule, alors que ma belle-sœur, ça, elle est hors de question, elle ne rentre pas, quoi. Elle a quand même deux gamins avec elle. L'avocat a trouvé ça trop bizarre, l'avocat a fait des démarches pas possibles, a dit au juge que c'était pas normal, comment ça se fait que deux prisonniers disent au surveillant que mon frère a du shit dans sa cellule, qui témoigne comme quoi mon frère fait peur à toute la prison, alors qu'il sort pas de sa cellule, qui est très calme. Enfin, l'avocat a dit que c'était trop louche, quelque chose de pas normal du tout. Donc, le jour du jugement, il a quand même dit au tribunal que ça sentait le guet-apens, que c'était un coup monté. Ça a pas plu ni au procureur, ni au personnel de la prison, donc il a quand même pris un an.
Et la sortie
Il devait déjà sortir, là. Son patron, enfin, il a eu un rendez-vous avec un patron. Le patron veut l'embaucher carrément, lui faire un CDI. Donc, on a renvoyé le courrier du patron disant qu'il voulait l'embaucher pour un CDI. Mais il y a toujours des patrons dans les roues, quoi. Il en a eu des rendez-vous à plusieurs reprises. Mais à chaque fois, le procureur dit que ben non, c'est pas faisable, non, c'est pas faisable, non, c'est pas possible. Ou alors, à chaque fois qu'en fait, c'est simple. À chaque fois qu'il a un truc de positif qui lui arrive dans sa vie, une formation ou une embauche, ben à ce moment-là, comme par hasard, les matons cherchent la merde. Et à ce moment-là, il a un rapport. Donc ça, c'est une coïncidence, mon œil. Il y en a assez des coïncidences, hein. De temps en temps, ça va, mais pas tout le temps, quoi. Il était super bien pourtant, il faisait de la musculation intérieure, tout ce qui s'ensuit et tout. Et là, il est redevenu... il a perdu beaucoup de poids. Il n'en peut plus, il n'arrive plus à manger, ni dormir... Oui, ils ont dit, on attend que tu te pendes, donc. Mais par contre, à la prison, on vous impose des cachets. On vous les impose, hein, carrément. À partir du moment où on voit que vous êtes sur les nerfs, ça va pas, que vous avez du répondant, ou que. Ils vont vous les imposer. C'est juste pour les endormir, en fait. Surtout qu'ils en dépendent. Tout de suite. Les conditions font qu'on en dépend de suite. Donc ils sont, en sortant de prison, ils sont obligés d'aller voir les médecins pour leur prescrire justement ce médicament-là, ou même style de médicament, quoi. Ils sont sous la dépendance, hein, en sortant de là-bas, ça c'est...
Comment ça s'est passé la sortie pour ce frère-là, par exemple?
Pour lui, bien. Bien. Et, je veux dire, il a peut-être pris quelques médicaments au début, mais maintenant, plus rien. Il a repris, bon... Il a du caractère, voilà. Après, si... Il sait très bien ce qu'il voulait, donc je sais pas, ça dépend. Chaque cas est unique, hein, après c'est...
Qu'est-ce que ça fait du coup de revoir un membre de sa famille dehors après plusieurs mois de...
Déjà c'est soulageant. Mais vous êtes toujours sous la peur, parce qu'une fois qu'ils sont connus, dans une petite ville comme la nôtre, les filles reconnaissent facilement, donc les jeunes, ils vous les interpellent comme ça pour rien dans la rue... Même dans ces moments-là, moi je.
T'es jamais rassurée.
J'interviens.
Et des fois, quand on te faisait des menaces ou quoi, c'était des menaces qui étaient au lien en fait en lien au fait que t'es une femme, genre sur tes enfants ou
sur mes enfants, oui, qu'ils allaient être pris par la DAS, qu'ils allaient appeler la DAS de suite, récupérer mes enfants, que j'allais me retrouver en garde à vue, que ça allait être catastrophique dans ma vie, que je retrouverais pas mes enfants comme ça, que je dis ça marche pas, je dis c'est pas possible, j'ai rien fait, vous n'avez pas de preuves, même si j'ai fait, vous n'avez pas de preuves. Même si je sais, vous n'en avez pas. J'ai vraiment, vous mettiez une seringue avec le sérum de vérité à l'intérieur. J'ai peut-être. J'ai dit, mais sinon, c'est pas la peine.
Ils ont déjà été violents avec toi ou...
Ben, ceux de Saint-Martin-d'Air, ouais. 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 Et surtout enfin, les flics, là, en ce moment, à Saint-Martin-d'Air. Depuis le nouveau commissaire de police, Saint-Martin-d'Air, c'est horrible. C'est des gamins. Ils ont rien dans la tête. Des jeunes, ils ont rien dans la tête. Comme je vous ai dit, ils profitent de l'uniforme et du flingue qu'ils ont sur eux, quoi, c'est tout. Ils sont en sécurité en groupe et... C'est tout. Ouais, ils sont agressifs. Ils remettent tout de côté de la barrière. Ils se servent des problèmes de quartier, des problèmes de jeunes, pour se défendre, en fait. C'est des traîtres, c'est des hypocrites, c'est des lâches, tout simplement.
Et là, t'as arrêté d'aller les voir
Ouais.
C'est quoi? C'est une question de pas avoir le temps de...
Mon frère, parce que je peux plus. Si je vais là-bas, je fais... Je me connais. Je tiendrai pas le coup. Je serai obligée de l'ouvrir ou faire quelque chose. Donc,
Et t'as peur que ça ait des conséquences?
Ouais. Il y en a assez comme ça sur mon frère. Ouais, je peux pas.
Et tu lui as écrit?
Je lui ai écrit, ouais. Et pareil, dans mes courriers, je suis très... J'exprime beaucoup ce que je pense, donc sachant que le courrier va peut-être tomber entre les mains d'un surveillant et qu'il va les lire, donc je m'exprime de manière à ce que s'il les lise, ils savent très bien ce qu'il en est, quoi. Je me suis voilée la face ces derniers temps, donc ouais. Donc j'ai des nouvelles à travers sa femme, ma mère.
Quand tu disais que tu avais l'impression que la police elle changeait, t'as l'impression qu'en taule ça change aussi?
Oui. C'est le même genre de jeunes. Il n'y a aucune différence. La différence serait que les surveillants se prennent pour des flics. Ouais. C'est pareil, au niveau de l'abus de pouvoir, c'est la même chose. Des deux côtés. Beaucoup de racisme, de toute façon. C'est... Mmh. Mais ils sont malins. Ils sont très malins. Ils ne vous le diront pas directement. Ils le font d'une manière à ce que... Voilà. Pareil, à ce qu'on ne puisse pas le prouver... Ils savent très bien qu'on n'est pas con, quoi, que c'est... Le racisme, c'est comme une tache noire, mais de la figure, quoi. C'est... Mais ils sont malins. Il faut prouver, quoi, après. Ce qui est difficile.
Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui viennent au parloir qui se plaignent du racisme?
Ouais. On est tous dans le même cas. Fallait le prouver. Faut pas le prouver. Du racisme, de toute façon, il y en a partout, dans les écoles, partout. Quand vous commencez à parler de racisme dans une école, le directeur va vous, la directrice va vous appeler l'inspecteur académique en disant que j'ai proliféré des propos raciaux, se disant que j'ai accusé l'école d'être raciste. Vous faites rentrer dedans, je vous le dis. Vous faites rentrer dedans. Ben, je leur ai dit, s'il n'y a pas de souci, on peut aller au tribunal. Moi, je suis prête à venir avec deux associations, avec le conseil administratif des MJC, dont je fais partie du bureau. Il n'y a pas de souci, hein. On peut y aller. Hein. C'est ça. Comme je vous ai dit, les gens, quand ils sont de l'autre côté d'une barrière, ils ont le pouvoir. Donc, ils font ce qu'ils veulent de vous. Mais s'imagine pas que vous, ce que vous êtes de l'autre côté d'une barrière, de l'autre côté de la barrière, vous êtes quelqu'un, vous avez une vie, que vous êtes une femme à part entière. Vous avez une vie sociale, vous avez, voilà, je veux dire, un boulot, tout ce qui s'ensuit. Non, on vous voit là comme vous êtes, là, l'image même à l'instant. On vous juge sur deux phrases que vous avez dites, quoi. C'est... Donc ça, c'est le phénomène prison, commissariat, école, c'est le même phénomène. On le trouve de partout, ce phénomène-là, au boulot, partout. On vous juge par rapport à votre image, à une expression, à deux mots, à, je sais pas. Ils apprennent pas à vous connaître. Ça s'appelle du racisme, tout simplement.
Et dans les écoles, par exemple, est-ce qu'il y a d'autres femmes comme toi qui...
Oui, ouais, les mamans, bien sûr. Mais c'est pareil, hein. Moi, je fais partie du cas exceptionnel où j'ai une gueule. Je l'ouvre, je dis ce que je pense. C'est comme ça, j'ai appris. Pendant très longtemps, j'ai fermé ma bouche. Pendant très longtemps, j'ai jamais rien dit, jamais exprimé ce que j'avais à l'intérieur. J'ai appris avec les collectifs, avec les associations, à dire ce qu'on pense qu'il y en avait marre. Quand il y a un ras-le-bol, il y a un ras-le-bol, quoi. Donc j'ai appris à parler. En fait, ça faisait partie de moi, mais je ne savais pas. Et là, vous avez beaucoup, là. En général, c'est ça, les femmes, les mères, elles ont peur. Pareil, à l'école, ils vont s'en prendre à mon fils, à l'école.
Et avant, quand tu disais pas ce que tu pensais, tout ça, machin, est-ce que t'avais l'impression que c'était aussi lié le fait, justement, que tu sois une femme, une mère
Pas que une femme, une mère, mais... Non. Non, pas seulement parce que je suis une femme, une mère, non. Ça, c'est le genre de truc qui arrive à tout le monde, hein. C'est pas... Mais le fait de ne pas se défendre, c'est mortel. Hein. Vous repartez avec des larmes, il vous faut pleurer sur le coup, je veux dire, c'est... Stop aux larmes, quoi, il y en a marre. Si on pleure, autant pleurer pour quelque chose qui en vaut la peine, pas pour ça. Donc c'est pour ça que je fais appel aux femmes qui se lavent et qui se battent, purée. On est dans un temps, en 2011, qu'elles se lavent, quelles qu'elles soient, voilées, pas voilées, musulmanes, pas musulmanes, européennes, espèce que vous voulez. Mais qu'elles se lèvent, quoi. Qu'elles arrêtent de dormir, qu'elles arrêtent de se faire écraser, qu'elles arrêtent de... Qu'elles fassent, je veux dire, qu'elles mettent le pied là, qu'elles aient courage de mettre le pied là où on a l'impression qu'elles ne peuvent pas y être, quoi.
Alors, vous êtes toujours sur Radio Kaleidoscope 97 FM avec Les Murs ont des oreilles. Et ce soir, c'est une émission avec Dégenré, l'émission féministe pour déranger sur les femmes, les lesbiennes avec la prison. Et on vient d'entendre un montage d'une personne qui est proche de détenus et qui a beaucoup lutté pour faire respecter les droits des détenus et ses droits et les droits des personnes qui visitent les détenus. Et moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans cette interview, c'est comment elle montre qu'elle a essayé vraiment de faire respecter ses droits par des démarches institutionnelles, en allant voir des dirigeants, et aussi comment ça fonctionne pas, parce que la réponse à ça, c'est au final plus de répression pour elle et les autres proches qui allaient au parloir, et pour son frère qui était détenu. Et moi, ce que j'aurais à en dire, en fait, c'est que ben, pour moi, la prison, ça fait partie d'un système politique et économique qui se protège par lui-même avec la répression et avec la prison. Et que du coup, la prison, elle fait partie de ce système pour le protéger, en fait. Et qu'à un moment, si on essaye de critiquer la prison ou de critiquer les systèmes de répression, eh ben, on va forcément se prendre de la répression ou de la prison dans la gueule parce que c'est un moyen de se protéger. Et que du coup, si c'est pour ça que du coup, quand on essaye de lutter par rapport à la prison, et ben forcément il y a de la répression en fait, parce qu'on met en danger le système en quelque sorte.
Ouais, moi ça me fait penser à ce que tu es en train de dire, justement, à ce que là elle dit qu'elle s'est battue pendant hyper longtemps et que maintenant elle va plus voir son frère parce qu'elle a l'impression en fait que elle pourra pas tenir et pas plus exprimer sa colère en fait. Et c'est vraiment un truc que si elle se permet de re-exprimer sa colère, et ben il y aura de la répression quoi.
Ouais, moi ça me fait aussi penser à comment ce système il est global. C'est quand Karine dans le montage avant, elle dit ben en fait la punition elle est partout. Et en fait c'est ça. Quand on s'écarte de la règle, quand on s'écarte du droit chemin, quand on essaye de s'en sortir pour soi-même, quand on ouvre sa gueule contre les oppressions, par exemple, eh ben, y a une punition qui arrive derrière, en fait. Et par exemple, ben, on voit là, elle envoie une lettre à l'OIP, elle contacte la ministre, et puis boum, son frère, il se fait transférer, il subit des pressions, toute la famille subit des pressions, tout ça. Et... du coup, ça me donne envie de dire que nous, au-delà de critiquer les conditions d'enfermement, même si on trouve ça important, de le respect de la dignité et des droits, eh ben, on a envie plus globalement de critiquer un système et on aimerait la fin des prisons et la fin de l'enfermement en général. Voilà.
ouais, et du coup, là, moi, je vais introduire maintenant le prochain montage. Qui est un témoignage qui vient de l'Envolée. C'est une meuf incarcérée qui parle du coup des parloirs vus de l'intérieur de la prison et qui parle aussi de son rapport au suicide.
Alors hier, j'ai eu un parloir avec ma mère et mon fils de 3 ans. Mon fils jouait avec moi, il était assis sur mes genoux. Et d'un coup, la surveillante censure qui s'occupe du courrier et dont tout le monde se plaint est venue face à nous en disant « Je regarde car j'ai entendu du bruit ». Ma mère et moi lui avons fait remarquer qu'il y avait un enfant et que c'est normal qu'il y ait du bruit. Elle est restée quand même face à nous, comme un gendarme. Peut-être que c'était un rêve pour elle. Je lui ai demandé ce qu'elle nous voulait. Elle nous regardait et disait « Ben, je regarde ». Je lui ai fait remarquer qu'elle nous gâchait le parloir et qu'elle devait nous laisser tranquille. Et je me suis emportée. On verra ça tout à l'heure. J'ai fini mon parloir en signifiant à mon fils que si j'avais crié avec cette méchante dame, c'est parce qu'elle m'avait fait une piqûre qui m'avait fait très mal pour ne pas le traumatiser. Car mon fils croit que je suis dans un hôpital médical. Voilà, je suis sortie du parloir, il y avait une gradée. Je voulais lui parler pour lui expliquer ce qui s'était passé. Elle m'a répondu, c'est pas le moment. Je suis passée à la fouille, je suis remontée sur la coursive, et là je vois Monsieur Lévy, chef de détention. Je lui dis, ça tombe bien, je voulais vous voir. Et il m'a crié dessus en me disant, il y en a marre de vous. Il m'a bousculée en me prenant le bras. Je lui ai dit, vous ne savez même pas ce qui s'est passé. De plus, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites. Il m'a répondu que je n'avais qu'à écrire au contrôleur des prisons, puisque j'ai l'habitude. Je lui ai répondu que c'était des droits et qu'en aucun cas je ne devais subir ce genre de réflexion. Il m'a enfermé en cellule. J'ai demandé à voir la directrice pour m'expliquer, car c'est grave tout ça. Parce qu'un enfant sur les genoux de sa mère, faut arrêter d'abuser. Ici, comme dans la majorité des prisons, ils n'ont peur que de ceux qui sont signalés comme suicidaires et ont un traitement. Et ce n'est pas mon cas. Alors je dois subir les conséquences de ma grande gueule. Je suis la femme à abattre. Ils n'aiment pas les gens qui sont une tête pensante. Surtout ici, vu qu'il n'y a que des mouchardes. L'administration est arrivée à un degré de non-droit qui devient dangereux pour nous. De plus, une grosse partie du personnel sait que ce n'est pas normal ce qui se passe. Mais personne ne dit rien, faute de soutien, ce qui est la même pour nous. Comme on dit, l'union fait la force. Pour ma part, avec ou sans alliés, je me battrai jusqu'au bout. Je ne suis privée que de liberté et le revendique haut et fort. Résultat de tout ça, je n'ai toujours pas vu la directrice et je lui ai envoyé un courrier, ainsi qu'au contrôleur des prisons. Et à vous. J'allais oublier. Suite aux propos tenus par le chef de détention, je lui ai dit que j'allais faire une tentative de suicide, car c'est le seul moyen de se faire entendre. Il m'a dit « Faites. Vous vous rendez compte ? Je comprends pourquoi le taux de suicide est élevé. » Chose que j'ai faite hier soir. J'ai pris 23 comprimés que le médecin m'avait donnés pour mon dos. J'ai appelé le gradé du soir en lui disant que ça faisait un quart d'heure que je les avais pris, et en lui demandant d'appeler le médecin. Le médecin est venu, il m'a dit qu'il avait appelé le service antipoison et m'a donné du charbon à boire pour absorber. Il m'a dit que j'allais avoir une diarrhée importante avec des nausées, ce qui est vrai, j'ai passé la nuit aux toilettes et la journée aussi. J'ai des douleurs au niveau du ventre et très mal à la tête. Si j'ai fait ça, c'est pour crier mon désarroi. Je ne suis pas suicidaire, mais il fallait que je le fasse pour que cela soit signalé. Car cela fait 1 an de prison sans traitement ni suicide, et je peux vous dire qu'ils m'en ont fait beaucoup pour craquer. Mais là, fallait le faire. Car faire ce qu'ils ont fait juste parce que ton enfant est sur tes genoux et qu'une surveillante qui manque de reconnaissance veut te faire du mal gratuitement. Je n'ai pas de mots assez puissants pour dire. Voilà tout ce qui s'est passé, et comme toujours, leur version varie. Et je tiens à préciser qu'il n'y a que l'infirmière qui est passée me voir 2 fois dans la journée pour savoir comment j'allais. Sinon, l'administration fait comme si ça n'existait pas. Ça donne à réfléchir.
Alors, on voit que pour elle, le suicide, c'est aussi un moyen de lutte et un moyen de faire pression pour sur l'administration pénitentiaire. Et alors, faut savoir que le suicide, c'est une réalité qui est importante en prison, qu'il y en a beaucoup. Et c'est pour ça qu'on va en parler un peu. Et là, maintenant, on va écouter du coup 2 autres montages de lecture de témoignages de plusieurs personnes maintenant.
Alors du coup, il y aura 2 montages. Le premier montage, il est issu de la brochure Prisonnière 2, et le deuxième d'un bouquin qui s'appelle Prisonnière, de Catherine Herrel, aux éditions France Loisirs de 1978, et qui est un recueil de témoignages en fait de femmes en prison. Et du coup voilà, c'est témoignages qui parlent de suicide.
Le suicide à l'ombre. Fresnes, Fleury, Rennes, Lyon, Le Hos, Rouen, Marseille. Voilà dans l'ordre la liste des maisons d'arrêt où l'on se suicide le plus. Pour l'année 99, toujours d'après les statistiques, au niveau national, c'est tous les 3 jours un détenu quittait cette terre. Ultime transfert pour le cimetière. Quant aux tentatives de suicide, elles s'élevaient à 1 millier, soit une moyenne de 3 par jour. C'est-à-dire de plus en plus de candidats pour aller sans retour. Ainsi, l'enfer semble moins pénible que la prison. Ne croyez-vous pas qu'il est temps de se poser des questions ? Ici, voyez-vous, le suicide est partout. Avaler de l'eau javel, des fourchettes ou autres. Se pendre avec des draps, se tailler les veines à coups de lame, se gaver des cachets jusqu'à l'odé. La liste est longue encore. Les moyens sont ultimes, les causes diverses, mais le but est commun. Mettre un terme à une souffrance insoutenable, préférer la tombe à la cellule, le repos éternel au combat incessant de la vie en zomprie. Comme l'a si bien dit Philippe Maurice, la vie sans liberté me faisait aimer la mort. Si le suicide en milieu carcéral est devenu un phénomène presque banal, il n'en est pas moins complexe. Sa signification ne peut se réduire à la simple opposition entre courage et lâcheté. Pour les détenus, le suicide est vécu comme une issue de secours pour se sortir de cette impasse où la vie a pu vous mener, comme une solution ultime pour se débarrasser des chaînes que représentent les contraintes imposées par le temps, l'espace, et surtout le système en place, comme une alternative à la dépression ou à la folie. Afin de mieux comprendre ce qui peut amener un si grand nombre d'entre nous à envisager de se suicider, permettez-moi de planter le décor brièvement.
Au cœur de cet univers de béton, de pierre et de fer, nous évoluons entre silence de mort et hurlement. Une ombre menaçante plane au-dessus de nos têtes. Non, ce n'est pas la guillotine, mes amis, c'est la torture blanche, comme ils disent en Turquie. Violence psychologique, torture individuelle, tourment plutôt abstrait, mais pas virtuel. Et l'arme des temps modernes, l'isolement, associé à de multiples brimades, à cette somme de petits riens. Tout est mis en place pour nous mettre la pression, nous donner l'impression de n'être plus rien, nous enlever tout amour propre, dépouiller notre existence de tout son sens, ôter de nos vies leur valeur, et faire en sorte qu'elle ne soit plus que douleur. Quand autour de nous, tout s'acharne à vouloir nous noyer, comment trouver au fond de soi assez de force et de volonté pour remonter à chaque fois qu'on tente de vous rabaisser, sortir la tête de l'eau et se maintenir à la surface? Lorsqu'au royaume des vivants, vous avez le sentiment de n'avoir plus votre place. Surtout quand vous n'avez plus de lien à l'extérieur, plus aucun soutien, que l'indifférence générale et votre solitude vous font si mal. Et quand bien même vous auriez du courrier, des parloirs, pour vous redonner espoir, c'est si peu, comparé à la douleur d'être loin des vôtres, au manque de communication et d'affection, au fait d'être toujours considéré comme un être inférieur. Bien sûr, le besoin des matons de faire valoir un supposé pouvoir semble bien dérisoire, mais il suffit d'un moment de désespoir pour ne plus croire en une vie meilleure et basculer dans l'antre de la mort.
Quant à mon expérience personnelle, mes tortionnaires m'avaient tellement cassé que mes ressources étaient épuisées. J'étais fatiguée de batailler. J'avais fini par croire que ma vie n'était plus vouée qu'à l'incompréhension, à l'impuissance et à la frustration. En effet, à un moment donné, je me suis demandé pourquoi continuer à lutter, pour qui ? Pour moi sûrement pas.
Je me disais que ce monde pouvait très bien se passer de moi. J'étais tellement dégoûtée que j'ai fini par tout niquer et je me suis retrouvée à l'hôpital. D'ailleurs, voici quelques lignes écrites juste avant de péter les plombs, dans un moment de désarroi total.
Ma tristesse n'a d'égal que ma détresse. Ma souffrance n'a d'égal que mon impuissance. Ma violence n'a d'égal que l'indifférence. Ma peine n'a d'égal que l'intensité de ma haine. Plus aucune étoile dans le ciel. Plus aucune chaleur dans mon cœur. Plus aucune couleur dans mon âme. Pas même un rayon de soleil qui illuminerait ma vie. Par la nature abandonnée, par les hommes délaissés, que peut-il bien me rester ? Hormis cet indicible et formidable espoir qui me lie à la vie et m'éloigne des tourments de l'enfer et de la mort.
Au fond, je ne réclamais qu'un peu d'humanité et moins d'injustice. Mais ces lignes en disent plus long qu'un long discours, n'est-ce pas ? Sur ce, je tiens à rendre hommage à toutes celles et ceux qui nous ont quittés, paix à leur âme. Et je rends également hommage à toutes celles et ceux qui, comme moi, ont finalement choisi de vivre et de se battre. Je souhaite à tous courage, force et détermination. Audrey, Fren, mai 2000.
Le suicide, on y pense toujours ici, comme une consolation, comme quelque chose qu'ils ne peuvent pas atteindre, pas toucher, pas empêcher, une liberté. Je suis libre de mes rêves et de ma mort. Mais les rêves ne sont que des rêves, tandis qu'elle, elle est concrète, matérielle, lourde au bout de sa cordelette. Lourde de mon propre poids. La mort est chair et matière. Elle est une puissance, ma puissance d'aujourd'hui. Bien sûr, la prison y pousse, comme une épreuve vérité, une mise à nu, un face-à-face sans artifice, sans agitation dans le dénouement et la réflexion. Mais tout le monde n'est pas Zarathoustra. Zarathoustra danse sa solitude. Et si ma danse à moi, c'était la guigne des pendus. Bien sûr, la prison y pousse. Tous sont inaccessibles. Toi, eux. Les gens qu'on dépanne et ceux qu'on appelle au secours. Toute cette toile sociale, aujourd'hui rompue. Sans vous, je suis éteinte. Il me reste l'humiliation d'être moi, d'être inachevée à jamais, d'avoir accepté tant d'humiliation. Meurtrie, blette même, je suis déjà morte quelque part. Et après m'être battue longtemps, avoir refusé de le croire, je l'accepte. Et j'attends. J'attends comme ici ma libération, sans rien en attendre. Un jour, je sortirai. De même, un jour...
Les femmes se mutilent plus fréquemment qu'elles ne se suicident, une surveillante disait un jour. Les femmes se suicident moins parce qu'elles sont plus responsables et moins lâches. Oui, plus responsables des autres, et donc moins libres de disposer d'elles-mêmes. Les femmes ne vivent pas pour elles. Comment oseraient-elles mourir pour elles ? Décider sa mort, c'est avoir un certain pouvoir sur sa vie. Celui d'en arrêter le cours, un certain pouvoir sur son corps, celui de le tuer. Et quand donc les femmes, particulièrement les femmes détenues, ont-elles eu ce pouvoir, cette liberté de disposer d'elles-mêmes ? Ni à la prison, ni souvent même dans leur vie antérieure à la prison. En prison comme dehors, les femmes continuent de vivre pour autrui. En prison comme dehors, elles ont vocation à la souffrance, à la soumission, Alors, se suicider, se refuser à la souffrance, démissionner, n'est-ce pas un manquement à son destin de femme aussi grave, aussi condamnable que le geste de refus, de révolte qui en a amené certaines en prison ? En prison comme dehors, leur corps est une propriété collective, propriété de l'homme et des enfants dans un cas, propriété de l'administration pénitentiaire dans l'autre. Le suicide prend alors couleur de meurtre, tuer un corps qui ne leur appartient pas.
Ok, alors du coup, ce qu'on a pu entendre, moi je trouve ça montre pas mal comment en fait c'est pas les suicides, c'est pas des drames humains comme a pu le dire la ministre de la Justice, Michèle Alliot-Marie, mais que comme si c'était pas l'enfermement qui générait cette envie d'en finir et comme si c'était juste triste, mais que c'était un problème individuel. Et moi, je trouve ce qui montre pas mal, en fait, cet état d'esprit, c'est la mesure cynique qui a été prise il y a pas longtemps, là, du kit anti-suicide avec des pyjamas déchirables, tout ça, machin, qui fait que, en fait, la personne ne peut pas techniquement se suicider. Et moi, je vois là-dedans vachement une façon de nier le rôle de la justice et de l'administration pénitentiaire là-dedans, quoi, et de... comment en fait moi j'ai envie de dire que la prison c'est pas un espace neutre, mais c'est bien un lieu où on détruit les individus mentalement et physiquement, et où on les transforme jusqu'à ce qu'ils soit deviennent dociles, soit qu'ils se donnent la mort, en fait, quoi. Et pour illustrer à quel point le suicide c'est une réalité quotidienne, je vais donner quelques chiffres. Par exemple, comme on a pu entendre dire dans les témoignages, c'est que le suicide c'est trois tentatives de suicide par jour, et c'est un suicide effectif tous les trois jours en prison en France, en fait. Et c'est la France, c'est un des pays qui a le plus fort taux de suicide en Europe. Et du coup, voilà, j'ai essayé de chercher un peu des chiffres sur les suicides en France, en tôle, et c'est assez difficile d'avoir accès à ces informations parce qu'il y a clairement un truc de l'administration pénitentiaire de bloquer ces informations-là, en fait. Ce que j'ai pu trouver, c'est sur le site de Ban Public. Donc en 2010, on est à 118 suicides ou morts suspectes en tôle. Le record depuis 10 ans en France, c'est en 2009 avec 139 suicides. Pour ce qui est de... en 2009. Et là, pour en 2011, on est déjà à 9 suicides. Du coup, voilà. Alors, tous ces chiffres-là, ça prend pas en compte, en fait, les suicides qui ont lieu après la sortie de la prison, en fait, où des personnes, en fait, qui arrivent plus à dealer avec une certaine liberté retrouvée, parce que en France, elles ont été elles ont été infantilisées, en fait, et conditionnées à obéir et à demander l'autorisation pour tout et n'importe quoi, pour bouger le petit doigt. Et du coup, ce qui fait que, une fois sortie, en fait, il y a un truc de plus arriver à s'autonomiser, en fait, quoi. Et que c'est la prison qui crée ça. Et du coup, là, on va écouter un montage, en fait, de femmes qui parlent de leur peur de sortir, en fait, justement, avec cette certaine liberté, quoi. Et du coup, voilà, on va écouter ce montage.
Vous savez, de toutes les façons, la détention, c'est tout un pan d'une vie qui s'écroule. C'est une souffrance indicible pour celui qui est dedans, et pour sa famille aussi qui en souffre autant. Il faut l'assumer, il faut assumer la peine. Moi je vis pas, je souffre. J'ai raté tout, j'ai raté les communions, j'ai raté les naissances. Que de joie et pourquoi? Ma vie a basculé et je ne serai plus jamais la même personne. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? J'ai 52 ans, il y a la maladie et... à la sortie, qu'est-ce que je vais faire? Ce matin encore, je me disais, mon Dieu, si vraiment je sors, qu'est-ce qu'il va me rester à vivre? Travailler? À 57 ans, faut quand même être logique, hein. Ici, on n'est pas pareil.
Dehors, j'étais dynamique. Et ici, même si je ne suis pas un planouille, je me rends bien compte que je ne suis plus la même. Je me suis laissée aller, j'ai grossi. Noter, retravailler, ça ne me fait pas peur, du moment que j'ai mes enfants et mes petits-enfants à côté de moi. Mais qui embauche quelqu'un à cet âge? Et puis, plus le temps avance, plus mes gamines grandissent, et plus elles seront indépendantes. La plus jeune, je vais la reprendre à l'adolescence. L'adolescence, c'est pas facile, sans compter que je ne l'aurai même pas élevée. Ce qui est perdu, je vais débarquer un jour et je serai comme une étrangère pour mes enfants.
Ça n'a pas été facile à la sortie. Retrouver une vie normale, c'est plutôt du rail. Tiens, par exemple, la première fois que je suis sortie, ma première perme après 50 placards, je suis allée avec une copine dans un supermarché, eh bien, j'ai beau ne pas être une petite nature, les gens, les lumières, le bruit, les chariots, la musique, j'ai tourné de l'œil, comme ça, pof. Tout était trop... C'était la foire. C'est qu'à l'intérieur, on est dans un cocon. Tout est réglé comme du papier à musique, tout est joué d'avance, tandis que dehors...
Ouais, je m'en vais. D'un côté, je suis contente de retrouver mes enfants, mais sinon, ça me dit rien de sortir. Pour mes filles, oui, mais pour la vie, non. La vie m'intéresse plus. Que je sois ici ou ailleurs, c'est pareil pour moi. Moi, ce que je souhaiterais, c'est d'aller au cimetière, mais comme j'ai pas le courage d'y aller tout droit. C'est vrai, vous voulez la franchise? Alors je vous la dis. Je vous dis pas ça parce que je suis déprimée, hein, je perds pas la boule. Maintenant, mes filles sont habituées sans moi. Bien sûr, elles me disent « Maman, vivement que tu reviennes, mais moi, je... » Quand elles ont eu besoin de moi, j'étais pas là. Et maintenant, elles ont plus besoin de moi, je vais arriver là au milieu.
Moi, j'ai peur aussi, hein. À la fois, j'ai envie de sortir, mais j'ai peur. J'ai peur des gens, j'ai peur d'être dans un nouvel appartement et récupérer mes enfants. Ça aussi, ça me fait énormément peur. Faire les papiers, les courses, surtout avoir de l'argent, parce que j'ai plus du tout la notion de l'argent.
Je suis entrée à 37 ans en prison. Aujourd'hui, j'en ai 45. Bon, je me donne un an et demi. Si tout va bien, j'aurai fait 10 ans. En fait, la seule chose qui m'a tenue jusqu'ici, c'était la liberté. C'était franchir la porte. À tel point que je me demande si à la sortie, je ne vais pas m'effondrer, faire une dépression ou quelque chose dans ce genre. Ici, on voit tellement de souffrance, on n'oublie pas. C'est certain, je sortirai de prison, mais quoi qu'il en soit, je sortirai avec la prison.
Pour la vie, j't'imagine aujourd'hui engraissé au ravioli. J'en pâlis, pas ni blême. Tu disais en garde à vue, pas de blême. Tout ça c'est du déjà vu. Je ne vois que ma haine aujourd'hui. Ils t'ont vu, zon zon zon. On t'a vu t'es. Clic clac, c'est le bruit de la clé. Fin de soirée ou début de matinée, tu viens d'arriver. Ta nouvelle vie va commencer. Ta liberté s'est envolée. Tu ne l'aurais pas imaginé. Ta vie est programmée et minutée. Tes faits et gestes sont contrôlés et surveillés. Ma clé non-stop, ma tombe, ma stock te bloque. J'évoque les coups de bâton pesant du schnock. Prison égale bâtisse à haute tension. C'est le monde des coups de pression.
Attention, détention ferme ou provisoire. Du couloir au parloir, il n'y a pas d'échappatoire.
Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne.
Soulevé pour un délit mineur, t'as frappé un contrôleur, tiré sur un dealer. Dealer, justicier, quelle est l'ampleur quand ils te rangent Temtem dans leur classeur. Pour eux, t'es l'élément perturbateur. Les faits restent accusateurs. On donne raison au meilleur des orateurs, à la version du truffion, celle du procureur. Stupeur quand je vois ce mélange de malfaiteurs, du pointeur au kidnappeur, ou l'assassin qui ne sait même pas pourquoi il refroidit. La liste de mauvais plans, elle s'agrandit, mais le plus grand risque, c'est qu'à ta sortie, t'en gardes le souvenir d'une vie paisible et sans souci. Car si tu rechutes, ils gagneront leur pari.
Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne.
On abolit la peine de mort par souci de bonne conscience, mais la pire des sentences reste qu'on ne démolit pas les remords. Dans ta vie pleine d'ennui, tu médites sur ton sort. Tu végètes sur ton lit comme le fruit qui mûrit. Petit à petit, trop tu pourris. Tu choisis de faire le tour de tes souvenirs. Mieux vaut qu'espérer s'en sortir. Ta joie de vivre aujourd'hui sert à relettre, manuscrite et peu de visites. Avoue que tu cogites, vie à la prison sortiront des amis d'élite. Terrassé par cette vérité, une relation privilégiée lira les rescapés. La tornade est passée, le bateau a coulé. On réembarque ceux qui restent à côté. Famille, amis, dans la même galère. On sait pourtant qu'il n'y a rien à faire. La terre tourne, regarde par la fenêtre.
Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je rappe.
Alors on vient d'entendre un morceau de Bams qui s'appelle Zonzon et qui est issu de l'album Vivre ou Mourir.
Et pour ce qui est du montage qu'on a entendu juste avant, les témoignages viennent d'un bouquin qui s'appelle Femmes en prison de Christine Trinquier et qui est un recueil de témoignages de femmes de longue peine dans les années 90.
Et ensuite, on aurait voulu parler un peu des peines qui sont données aux femmes et la manière dont les peines sont attribuées aux femmes, mais on n'aura sûrement pas trop le temps, alors ça risque d'être un peu court. Mais il y a quand même deux montages qui parlent un peu de ça. Un premier qui est issu du journal de l'Envolée, et un deuxième qui est issu du même livre, Femmes en prison, de Christine Trinquier.
Je passe, je crois, le pire des moments depuis ces 27 mois de détention. Je suis tellement triste, je me sens tellement seule. Je le ressens de plus en plus, et mon chagrin s'accroît de jour en jour. Je sais que ce n'est pas bon du tout. Je peux passer une journée entière à regarder ce putain de lit au-dessus de moi, à me demander jusqu'à quand ça va durer. La prison est-elle vraiment une solution à toute cette misère sociale? Quand je suis en promenade et que je regarde les filles autour de moi, je me dis que la plupart sont là à cause du système. Des jeunes filles qui volent ou braquent par nécessité, d'autres qui travaillent au noir parce qu'elles n'ont pas de papier, des mules qui passaient de la cam pour nourrir leur famille. Ici, il y a même une grand-mère qui s'est fait choper. Quand elle parle, elle dit qu'elle l'a fait pour sa fille. D'autres le font par goût du luxe, tout simplement, parce que c'est la société de consommation qui veut ça. Avoir toujours plus, plus cher et mieux, même si ça ne sert à rien. Ce sont celles qui sont là pour escroquerie, qui avaient pourtant une bonne situation. Mais l'appât du gain a pris le dessus. D'autres filles sans problème, avant d'arriver ici, avaient une vie dite normale, jusqu'à ce qu'un mari frappe, humilie, blesse ou cogne, et qui, sur un coup de folie, ont blessé à leur tour et tué. Celles-là se retrouvent du jour au lendemain dans les rangs des criminels et enfermées pour un bon bout de temps. Et même si un jour les portes des prisons s'ouvrent, elles resteront marquées à jamais de cette mort qu'elles ont donnée. Cet enfermement, cette répétition de tous les gestes jour après jour pour rendre fou n'importe quel d'entre nous. Ou alors augmenter sa colère, si ce n'est sa rage envers ce système complice, voire coupable de la misère sociale. Ces politiciens écœurants dont le discours n'a d'autre but que gagner la voix de l'électeur, mais en vrai ils n'en ont rien à foutre, tout ce qui les intéresse c'est le pouvoir, c'est de régner. On vit dans un monde de merde les amis, j'ai envie de gerber.
Mon procès a duré 4 jours et un délibéré de 2h30. On a carrément occulté le rôle des médicaments. Pour eux, à l'époque, c'était du blabla. J'avais tué, découpé, pris perpétuité, on n'en parlait plus. Vous imaginez ? 2h30 pour l'éternité. Je suis plus que déterminée, je suis enragée. Et il y a l'expertise psychiatrique également. 20 minutes pour l'éternité. Parce que c'est eux qui détiennent la clé de votre liberté. J'ai été déclarée parfaitement responsable de mes actes. Vous vous rendez compte ? On expertise quelqu'un 20 minutes, pour une vie. Quand on m'a annoncé cette perpétuité, disons qu'on reste un peu stoïque, vous savez, on se dit « est-ce que j'ai bien entendu ?» Mais jamais je n'ai accepté cette perpétuité, et jamais je ne l'accepterai.
Les journaux, ils disent jamais tout. Ils disent « toxicomane, droguée, camée, prostituée, elle a pris tant, elle a fait tant, elle s'injecte tant ». Et pour eux, on est des déchets de la société. Mais c'est leur société qui nous a fabriqués et qui nous a baisés. Faut voir les filles ici, je veux dire. T'as pas idée de ce que ça a été leur vie, de ce qu'elles ont morflé. Non, les gens savent pas et ils veulent pas savoir. Alors moi, ça me fait marrer tout leur discours. Ils étaient où les gens quand mon père me coinçait dans la salle de bain? Et ils étaient où quand Chantal, elle se faisait défoncer la gueule par son mec? Conneries, conneries de merde. Faut les voir les filles, à Fleury et ailleurs, parce que j'en ai fait des tôles moi. Et c'est pas fini, et j'irai jusqu'au bout. Parce que ma vie à moi, c'est ça, la cam et la tôle. Y'a de place nulle part pour moi, à part dans la cam et dans la tôle.
Alors voilà, on voit un peu comment les peines sont attribuées aux femmes et on voit que souvent ben, les délits ils sont aussi en lien avec ce monde et c'est aussi des moyens de survivre, soit en se défendant d'agressions, soit pour aussi des raisons économiques pour pouvoir survivre dans un monde capitaliste. Mais ce qu'on peut dire aussi en deux mots, c'est que la manière dont sont données les peines, eh ben, on peut observer deux choses dans la justice. C'est que souvent, en fait, pour les délinquantes, entre guillemets délinquantes, il y a beaucoup de personnes qui sont considérées un peu, de femmes en fait, qui sont un peu considérées comme si elles avaient été juste complices et complètement manipulées et complètement soumises. Alors, du coup, dans ces cas-là, souvent, eh ben, elles ont des peines plus faibles. Mais c'est vraiment, du coup, pas du tout considérer ces femmes comme des personnes responsables de leurs actes. Et c'est aussi un moyen de les renvoyer un peu à leur rôle de femme et qu'elles restent à leur maison, au foyer, avec les enfants et tout ça, et qu'elles s'occupent de leur famille. Mais sinon, on peut aussi voir comment il y a des femmes qui sont, au contraire, considérées comme des monstres parce qu'elles ont tué. Et elles se sont, dans ces cas-là, complètement écartées du rôle qui est le rôle des femmes. Et dans ces cas-là, les peines, elles sont vraiment plus strictes. Et on peut analyser ces peines vraiment plus strictes par le fait qu'elles font au final une sorte de double délit, d'une double faute. La faute déjà par rapport à la loi, de ne pas avoir respecté la loi, mais aussi la faute de ne pas avoir respecté leur rôle de femme, de s'être écartée de leur rôle social, en fait. Alors voilà, c'est un peu en deux mots et on aurait pu en dire beaucoup plus, mais on n'a pas beaucoup de temps, alors on va enchaîner sur un autre montage.
Du coup, le montage qui vient, c'est une lettre ouverte de deux détenus qui est extrait de la brochure Prisonnière 2.
C'est une structure organisée de manière inefficace et contradictoire de tous les points de vue. On pourrait la comparer à une volière ou au zoo qui a grandi et embellit, devient comme par magie un parc naturel de merde, qui en tout cas est toujours construit avec des enclos, comme l'est la prison. Satan a donné l'illusion que l'on ne se trouve pas dans une cage, mais dans un large espace qui offre certains services. Gymnase, jardin, chaîne IFI, magnétoscope et télévision, quelques ordinateurs. Il faut se considérer chanceuse parce qu'au lieu de vivre dans un zoo, tu vis dans une réserve naturelle. Étant des animaux pensants, nous pouvons choisir d'utiliser le temps à l'intérieur de la façon la plus optimale possible, c'est-à-dire de s'en servir pour enrichir ses connaissances personnelles, pour ne pas se laisser aller à compter les secondes, les minutes, les heures, les jours, les mois, les années, en perdant comme ça les jours de sa vie que personne ne te rendra jamais, en regardant des stupides programmes télévisés, la drogue d'État, ou en jouant aux cartes, la drogue de la prison, ou encore une chose plus simple qui est la plus pratiquée, de prendre la fameuse thérapie sous forme de pilules, de sachets, de gouttes pour dormir, pour t'éteindre le cerveau, pour te faire sentir heureuse, pour manger ou pour ne pas manger, pour ne pas souffrir, pour chier. L'important ici semble être de ne pas penser, de laisser glisser la vie et le temps jusqu'au moment de sortir, pour qui sortira, ensuite on verra. La prison n'offre pas de réel encouragement pour qui en a besoin, n'offre pas de personnel compétent, ou plutôt motivé pour les activités de divertissement ou d'éducation, parce que tu es de toute façon dans une cage, et de toute façon considéré comme un animal, ou plutôt un végétal. Pour cela, personne ou presque s'intéresse à toi, rien ne se fait par passion, tout se fait pour l'argent. Une chose est sûre en tout cas. Quand tu sortiras, tu n'auras rien fait pour toi-même, tu ne te seras pas construit un seul rêve de liberté, et ce qui te restera de cette expérience sera uniquement une note sur ton casier judiciaire. C'est comme si le temps s'était arrêté, mais ce n'est pas le cas, et tu te retrouveras dans une réalité, dans une société différente, mais toi, tu es toujours la même, à la limite un peu plus âgée sur l'état civil, et certainement avec un peu plus de problèmes à affronter. C'est pour cela qu'aujourd'hui, comme jamais, nous sommes toujours plus convaincus que la prison n'est utile à rien, et à personne. Sinon pour remplir les sales poches de ceux qui la gèrent et des merdes qui choisissent d'y travailler. C'est un système qui doit être combattu, comme toute société qui le prévoit. Parce qu'il est clair que 1 an ou 16 ou 30 ne font pas de différence et ne changent rien à la personnalité d'une femme ou d'un homme, et si ça sert seulement à punir, ben alors bravo. Avec l'espoir que toutes les prisons du monde explosent, Roberta et Felida, détenues à la prison de femmes de Rebibbia à Rome, Italie.
Alors voilà, c'est la fin de l'émission, et juste on peut vous dire qu'on peut écrire avec Karine et Soussou, dont on a entendu des lectures de témoignages et de textes. Et ce, en écrivant à L'Envolée et en leur proposant une correspondance. Alors l'adresse de L'Envolée, c'est L'Envolée, 43 rue de Stalingrad, 93 100, Montreuil. Alors voilà, ça c'est pour le contact de L'Envolée, si vous voulez proposer une correspondance à Karine ou Soussou, dont on a entendu les textes pendant l'émission. Et ensuite, on va terminer un peu rapidement avec... avec un morceau de Coco Rosy qui s'appelle Beautiful Boys et qui est l'histoire d'un PD en prison et du coup qui va être exécuté, et ça s'inspire de la vie de Jean Genet. Voilà, et enfin, juste avant ce morceau de musique, on avait proposé à la personne qu'on a interviewée de passer un message aux prisonniers, et c'est assez bref, et du coup ça sera juste avant le morceau de musique. Voilà, bonne soirée sur Radio Kaléidoscope. Bonne écoute, au revoir.
Salut.
Non, je sais pas, je sentirais quoi. Battez-vous, écrivez des courriers, faut pas se laisser faire. Mais faites-le intelligemment. Ne soyez pas agressif envers les surveillants, parce que quoi qu'il en soit, ils ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent de vous. Voilà. Donc, n'ayez pas cédé aux menaces, surtout pas. Gardez la foi pour vos femmes, vos familles, vos mères, vos enfants. Et au contraire, de faire le contraire de ce qu'ils attendent de vous. Et la tête sur les épaules et le sourire. C'est ce qui va les tuer. Après, le reste, c'est banal. Courage, tout ce qui s'ensuit. Bon, ils n'en ont pas besoin de l'entendre. Ils l'entendent assez avec leur famille, quoi.